temps de Noé, les hommes vivent aujourd'hui dans le monde. Sont à la recherche de la vanité, de la richesse et de l'argent. Qui attend, qui prie, qui pense à cela? Que le Seigneur reviendra au moment où on ne s'attend pas, comme un voleur dans la nuit. Le Seigneur apparaîtra au moment où on n'y pensera pas, au son de la trompette, dans sa puissance. Oh, comme ce sera merveilleux quand nous verrons Jésus dans sa beauté. Combien de signes le montrent au ciel qui nous enseigne à comprendre ces choses. Le royaume de Dieu n'est pas loin. Beaucoup d'hommes déjà sont dans le désespoir, ont peur de l'avenir, car dans le futur prochain, proche, dans ce jour, ce sera une terreur pour ceux qui resteront. Le Seigneur apparaîtra au moment où on n'y pensera pas, où les hommes n'y penseront pas, au son de la trompette, dans sa puissance et sa gloire, comme ce sera merveilleux quand nous le verrons, comme ce sera glorieux. Cela commence déjà à arriver. Le voyez-vous? Levez vos têtes. La rédemption est déjà proche. Que nous avons espéré et cru. Alors veillez et tenez-vous prêts, car vous ne savez pas à quelle heure Jésus viendra. Que vos lampes ne s'éteignent pas, car l'époux n'est plus loin. Le Seigneur apparaîtra quand nous n'y penserons pas, au son de la trompette, dans sa puissance glorieuse. Oh, comme ce sera merveilleux quand nous verrons Jésus. Ce sera comme un rêve merveilleux et glorieux. Nous souhaitons la bienvenue à tous les frères et sœurs du monde entier pour l'émission Méditation biblique sur la parole avec le frère Frank. Nous sommes très reconnaissants à Dieu d'entendre la parole révélée de Dieu à l'époque où nous vivons actuellement. Puisse le Seigneur bénir le frère Frank, le fortifier et le guider par son esprit pour qu'il dise ce que le Seigneur veut dire à l'Église. Avant que le frère Frank ne s'adresse à nous, je vais lire une parole d'introduction tirée de la lettre aux Éphésiens. Le chapitre 3, versets 20 et 21. Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. Éphésiens 3, versets 20 et 21.
Ihm aber, der nach der Kraft, die in uns wirksam ist,
mais à celui qui, selon la puissance qui agit en nous, est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit tout l'honneur dans l'Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations, dans tous les siècles, jusqu'à l'éternité. Amen. S'il te plaît, frère Frank, je voudrais moi aussi saluer tout le monde très, très cordialement et transmettre les nombreuses salutations qui nous sont parvenues, que ce soit le frère Müller de la Baltique, le frère Mwamba de Kolwezi, le frère Cécile de Pretoria, oui, du monde entier, le frère Baumgartner de la Suisse, et nous sommes reconnaissants au Seigneur Dieu que, si Dieu le veut, nous puissions à nouveau avoir des réunions régulières en Suisse chaque dernier dimanche du mois. C'est tout simplement le respect devant la parole de Dieu. Et le plus important pour un croyant, ce sont les réunions. C'est pourquoi le Seigneur a fait cette promesse. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, c'est ce qui compte. Et puis l'exhortation suivante, n'abandonnez pas vos N'abandonnez pas vos assemblées, ne négligez pas vos réunions, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour les émissions qui sont entendues dans le monde entier. Oui, on peut vraiment dire que cela n'a jamais été fait sur terre. Cela n'a jamais existé comme ça sur terre. Et nous avons entendu de la bouche de frère Branham que le dernier message biblique précédera la venue de Christ. Et cela est devenu une réalité divine sous nos yeux. Et nous en sommes très, très reconnaissants au Seigneur. Nous allons examiner quelques précieux passages bibliques. Je demande maintenant que nous commencions directement par là. Nous lisons Dans l'Épître aux Romains, le chapitre 1, versets 1 et 2. Romains chapitre 1, versets 1 et 2. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, j'ai été mis à part par un appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Loué soit le Seigneur et exalté. En annonçant le message du salut, Paul s'est appuyé sur les prophètes de l'Ancien Testament qui ont prédit tout ce qui allait arriver lorsque Dieu conclura une nouvelle alliance. Et voilà qu'il a utilisé les passages bibliques de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, dans chacune de ses lettres. Et je voudrais vraiment que tous, dans tous les peuples et toutes les langues, comprennent que nous ne pouvons, ne devons et ne voulons rien prêcher d'autre, annoncer d'autre aujourd'hui que ce que nos frères qui ont été appelés et établis par Dieu ont déjà annoncé. Et comme nous l'avons entendu dans, ont déjà prêché et annoncé, et comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, que Dieu est capable de faire plus que ce que nous pouvons demander et implorer. Au-delà de tout, il veut accomplir sa parole et toutes les promesses doivent se réaliser et arriver à leur accomplissement. Donc, ainsi, nous aussi, nous proclamons le pur et véritable évangile, le message divin du salut tel qu'il a été prédit dans l'Ancien Testament et annoncé dans le Nouveau. S'il vous plaît, frères et sœurs, bien-aimés, de tous les peuples et de toutes les langues, veillez prendre note du fait que le Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement de la prophétie biblique. Jean-Baptiste était un prophète promis, un homme envoyé par Dieu avec le message de Dieu pour le peuple de Dieu. Et les passages d'Ésaïe 40, verset 3, et de Malachie 3, verset 1, ont été accomplis par son ministère. Il en va de même pour la naissance du Sauveur. Il avait été prédit qu'une vierge enfantera un fils. Tout a été prédit et tout s'est passé comme les prophètes l'avaient annoncé. C'est exactement ce qui se passe à notre époque. Dieu avait vraiment promis un prophète comme Élie avant que le grand et terrible jour du Seigneur n'arrive. C'est ce qui est écrit dans le prophète Malachie au chapitre 4. Frères et sœurs, ce dont nous avons tous besoin, c'est du respect devant Dieu et la parole de Dieu et d'une véritable foi vivante en ce que Dieu a dit et promis dans sa parole. Car il y est écrit littéralement qu'il ramènera le cœur, il retournera le cœur des enfants vers leur père. Il rétablira toutes choses dans l'état primitif. C'est aussi ce que notre Seigneur a répété dans Matthieu 17. Nous remercions Dieu pour l'envoi de son prophète, frère Branham, dans notre temps, et nous sommes reconnaissants d'avoir été réellement ramenés à Dieu et à la parole de Dieu. Lorsque la Bible parle du jour du Seigneur, nous devons lire tout ce qui a été dit à ce sujet. Déjà dans Apocalypse chapitre 1, Jean a été transporté au jour du Seigneur. Et si vous demandiez à un adventiste ou à un sabbatiste, qu'entend-on par le jour du Seigneur? Qu'entendons par le jour du Seigneur? La réponse serait oui. C'est le sabbat. Oui, mais si vous lisez les nombreux passages bibliques qui parlent du jour du Seigneur, vous obtiendrez tout de même la réponse divine. Et nous ne voulons rien d'autre que la réponse divine à chaque sujet biblique. Nous continuons à lire. Nous lisons maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 et 5. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 et 5. Et comme il était assemblé avec eux, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père que vous avez entendue de moi, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit, et cela dans peu de jours. Rendons grâce au Seigneur qui n'a pas seulement donné la vocation, l'appel, qui n'a pas seulement donné un appel, mais qui a dit directement ici ce qui fait partie de la... quand il donne un appel, qu'est-ce qui en fait partie? C'est-à-dire, à savoir, d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit avec la puissance d'en haut, afin que la prédication ne se fasse pas avec l'intelligence, mais sous l'inspiration et la direction du Saint-Esprit. Et c'est ce qui est le plus important pour cette époque également. Nous savons tous que tous, dans toutes les églises, ont leur doctrine, leur enseignement et ont établi leur confession de foi. Mais nous retournons simplement à la parole de Dieu pour vous donner le premier exemple. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, nous trouvons la conversation du Seigneur avec Nicodème. Et le Seigneur dit, il faut que vous naissiez de nouveau, sinon vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Puis vient la déclaration, Il faut que vous naissiez de nouveau d'eau et d'esprit. Chacun peut le lire. Les vrais prédicateurs ne s'arrêtent pas à cette parole. Les vrais prédicateurs, ils passent à la parole suivante et ils vont seulement d'écriture en écriture et vont à l'envoi suivant prononcé par le Seigneur et assemblent ce qui va ensemble dans les Saintes Écritures. Ça s'arrête pas à un verset. Qu'on fait toutes les églises, qu'on fait toutes les églises, que ce soit l'église romaine, l'église grecque, l'église orthodoxe, l'église anglicane, l'église presbytérienne, toutes les églises ont utilisé ces deux mots-là, d'eau et d'esprit, pour mettre trois fois de l'eau sur le front du nourrisson au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce nourrisson est alors un enfant de Dieu et né de nouveau par le Saint-Esprit. Selon leur dire, c'est ce qu'un homme doit. Imaginez-vous une telle chose et représentez-vous une telle chose. À savoir que la tromperie dans les églises commence vraiment à la naissance, à leur naissance, à l'essence d'un homme, et ne s'arrête qu'à l'enterrement de celui-ci. La tromperie. Et c'est pourquoi il faut que nous puissions le dire clairement. Les autres passages bibliques doivent être lus. Quand on lit une écriture, on doit toujours considérer toutes les autres écritures qui traitent ce sujet pour avoir une vue d'ensemble. Et c'est pourquoi nous devons simplement revenir maintenant sur ce que les apôtres ont annoncé, enseigné et pratiqué dans le premier sermon, dans la première prédication et dans la dernière prédication. Poursuivons notre lecture. Nous lisons de Actes des Apôtres, chapitre 1, maintenant le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, d'abord et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et c'est pourquoi l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu lors de la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Pierre n'a pas prêché, il a attendu que la promesse s'accomplisse et que le revêtement avec la puissance d'en haut ait lieu, et cela par l'effusion du Saint-Esprit. Ce n'est qu'alors que Pierre s'est levé et a dit, « Ici s'accomplit ce que Dieu a promis par le prophète Joël. Dans les derniers jours, cela arrivera. » Et cela s'est produit. Et nous devons revenir avec tout le respect, avec tout le respect possible, au modèle de l'Église primitif du commencement. Pour cela, le dernier message a été justement apporté qui doit correspondre à 100% au premier message de l'Église primitive. Maintenant, nous lisons dans Actes Apôtres 2, verset 39. Actes Apôtres, chapitre 2, verset 39.
Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen.
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont encore loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, en appellera. Cette parole aussi est si importante. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. La foi vient de la prédication. C'est pourquoi il est écrit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ici le jour de la Pentecôte qu'a eu lieu la première prédication, le premier baptême au nom de Jésus-Christ. Le premier baptême dans le nom de Jésus-Christ. Les apôtres. Et ici, c'était Pierre qui avait entendu ce que le Seigneur avait dit dans l'ordre d'envoi en Matthieu 28. Allez donc dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé, et ensuite, et baptisez-les dans le nom, pas aux trois titres, mais dans le nom dans lequel Dieu s'est révélé comme Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans l'Église du Nouveau Testament, tous ont été baptisés au nom du Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais voici maintenant le passage principal. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera à lui. Je dis cela avec douleur. Ce passage biblique, pourtant si important, a lui aussi été mal compris par de nombreux grands hommes qui ont été des prédicateurs de réveil. Par exemple, la déclaration qui a été faite, faites-vous baptiser chacun au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dois-je vous citer la grande Église qui affirme simplement que celui qui a été baptisé a automatiquement reçu le Saint-Esprit? Et si vous allez aujourd'hui chez les baptistes, chez les méthodistes, dans de nombreuses églises, je vous demande, avez-vous déjà entendu dire que dans une église baptiste, il y a des heures de prière pour recevoir réellement le baptême du Saint-Esprit? Là-bas, on croit que le baptême, que le baptisé a reçu le Saint-Esprit au moment où il a été baptisé. Parce qu'il est écrit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Mais celui qui poursuit la lecture des Actes des apôtres, que ce soit le chapitre 8, le chapitre 10 ou le chapitre 19, il faut continuer à lire et aller d'écriture en écriture. Dans l'un des deux endroits, les gens ont d'abord été baptisés d'eau, puis les apôtres sont venus de Jérusalem pour leur imposer les mains à eux qui étaient devenus croyants, afin qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Dans l'autre cas, chez Corneille, ils ont d'abord été baptisés du Saint-Esprit, puis dans l'eau. Dans Actes des Apôtres 19, ils ont été baptisés en premier dans l'eau, puis ensuite du Saint-Esprit. Pourquoi les gens, pourquoi est-ce qu'on ne va pas en tout sujet, seulement de passage en passage biblique, mais on prend un seul passage et on s'y réfère et c'est ainsi qu'on a mal compris le passage qu'on a pris. Prenez l'autre communauté de foi qui ne croit pas du tout au baptême d'eau. Alors eux, ils disent par contre, de 1 Corinthiens 1, juste parce que Paul a dit, Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Et c'est pourquoi le prédicateur, du réveil d'une grande communauté a annoncé, Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser, donc chez nous on ne baptise pas, chez nous on proclame seulement l'évangile. Pourquoi ce grand homme de Dieu n'est-il pas allé plus loin d'écriture en écriture? Et si vous revenez même à la Réformation, Martin Luther n'était pas seulement contre le baptême de foi, il a prononcé même son jugement, il a prononcé la malédiction sur ceux qui se refont baptiser pour corriger leur baptême. D'une part, un homme de Dieu qui annonçait l'évangile, d'autre part, frappé d'aveuglement, frappé de cécité. Et si nous parcourons tous les réveils, seules des vérités partielles ont été révélées depuis la Réformation. Des vérités en partie. Mais dans chaque réveil, des nouveautés ont été révélées à partir de l'évangile, de l'Écriture, toujours plus a été révélé à partir de l'Écriture jusqu'au réveil de la Pentecôte où l'effusion du Saint-Esprit a été soulignée et aussi vécue de manière nouvelle. Mais maintenant, nous sommes effectivement arrivés au point où l'on ne peut plus rester dans des enseignements transmis sans être allé d'écriture en écriture. Car même le mouvement de Pentecôte, le mouvement pentecôtiste est resté dans la doctrine trinitaire. Il croit en une sainte Trinité, le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel. Où trouve-t-on quelque chose de ce genre dans la Bible? D'une part, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais d'autre part, ils sont restés dans l'erreur malgré leur baptême du Saint-Esprit. Et ils baptisent selon la formule romaine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais prétendent être baptisés du Saint-Esprit. Et permettez-moi de le dire clairement. Les vrais croyants qui reçoivent réellement le Saint-Esprit seront ensuite conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité et ne pourront pas interpréter des choses. Et celui qui prétend maintenant avoir reçu le Saint-Esprit sera ramené à Dieu et sa parole. Il ne restera pas dans des doctrines de la Trinité, dans le baptême de la Trinité, dans toutes les fausses doctrines qui existent. Il se laissera sanctifier dans la parole de la vérité en étant conduit par le Saint-Esprit dans toute la vérité, car c'est ainsi qu'il est écrit, sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Et il est écrit aussi que sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et c'est pour cette raison que la vérité divine doit être prêchée, et cela sur chaque sujet biblique, afin que tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse y soient sanctifiés, s'il te plaît. Nous lisons de 2 Corinthiens chapitre 1, versets 20 à 21. 2 Corinthiens 1, verset 20 à 22. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen est prononcé par lui, à la gloire de Dieu par nous. Mais celui qui nous a solidement fondés, nous et vous, sur le Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Lui qui nous a aussi marqués de son sceau et nous a donné l'Esprit comme garantie dans nos cœurs. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, relisez ces versets encore une fois. Cette parole est adressée aux élus, aux prédestinés, aux véritables croyants. Nous avons lu ici au sujet de notre Seigneur que en lui, il y a le oui en lui, l'amen, et l'accomplissement des promesses à la gloire de Dieu par nous. Mais ce n'est qu'en croyant aux promesses qu'elles peuvent trouver leur accomplissement. Allez donc aujourd'hui d'église en église, de paroisse en paroisse, de communauté en communauté. Qui croit chaque promesse écrite dans la parole de Dieu? Qui croit la promesse selon laquelle Dieu voulait envoyer un prophète comme Élie avant l'arrivée du grand jour du Seigneur, grand jour terrible et redoutable? Seuls ceux qui croient aux promesses de Dieu reçoivent l'onction pas le baptême de Saint-Esprit, mais aussi le sceau, les deux. Mais celui qui ne croit pas aux promesses ne reçoit que l'onction, mais pas le sceau. Il n'est pas marqué du sceau de Dieu. Et cela, nous devons simplement le souligner une fois pour toutes. On écrit que 550 millions de personnes sont aujourd'hui baptisés du Saint-Esprit, 550 millions. Qui, parmi ces 500 millions, ces 550 millions, donc 550 millions croient à la promesse. Tous croient au baptême du Saint-Esprit, à la conversion, mais aucun d'entre eux ne croit que Dieu enverra un messager avant le retour de Jésus-Christ pour remettre tout en ordre, rétablir toutes choses comme c'était dans l'Église primitive. Tous restent dans leur doctrine, dans leur enseignement, dans leur profession de foi. Je me répète, seuls ceux qui sont réellement nés de Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont vraiment reçu l'onction du Saint-Esprit dans leur âme, et qui croient toute la parole de Dieu, et en particulier la promesse pour notre temps, seuls ceux-là peuvent recevoir le sceau de Dieu. Et nous sommes reconnaissants que le Seigneur ait veillé à ce que nous puissions croire de tout notre cœur. Et nous savons tous que Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Mais seuls les élus croient ce que disent les Écritures et comme les Écritures le disent, dans le contexte dans lequel c'est écrit. Et ils ne reçoivent pas seulement l'onction, mais le scellement du Saint-Esprit, et cela pour le jour du Seigneur, oui, pour l'heure du retour de Jésus-Christ, le jour de leur rédemption. S'il te plaît, nous lisons maintenant dans Galates chapitre 4, Galates 4, verset 28.
Galater 4,
Galates 4,
Vers 28.
Verset 28.
Ihr aber,
mais vous, frères,
seid nach Isaac,
vous êtes à la manière d'Isaac, des enfants de la promesse. Ce verset aussi doit être pris au sérieux. Abraham avait bien Ismaël. Et après le décès de sa femme, il s'est remarié et a eu six fils, comme il est écrit dans Genèse 25. Mais Isaac était le fils de la promesse. C'est seulement à propos d'Isaac que le Seigneur a pu dire personnellement à Abraham, je reviendrai dans un an à cette époque et Sarah aura un fils. Ici, il y avait une promesse. Et frères et sœurs, nous devons insister sur le terme promesse, et le souligner encore une fois, car c'est à vous qu'appartient cette promesse, et à vos enfants, et à tous ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre. Il y a aussi la promesse que le Seigneur enverra un prophète qui remettrait tout en ordre, en place, qui remettra toutes choses, qui rétablira toutes choses. Donc, remercions donc le Seigneur, Dieu, de ce que nous avons tous ces passages de l'Écriture, que nous sommes des enfants de la promesse, que nous croyons à la parole de la promesse et que nous serons témoins de l'accomplissement des promesses. Poursuivons notre lecture. Nous lisons de Romains, le chapitre 11, verset 7. Romains, chapitre 11, verset 7. Qu'en est-il donc? Ce qu'Israël désirait, il ne l'a pas obtenu. Dans son ensemble, mais la partie élue l'a obtenue, tandis que les autres se sont endurcis. Ce passage biblique est également d'une grande importance. Tout le peuple d'Israël est sorti. Mais ensuite, il est venu le temps de l'épreuve pendant ces 40 ans. Puis les murmures ont apparu, puis l'incrédulité, puis la désobéissance. Et c'est pourquoi il est écrit, non pas l'ensemble, mais la partie élue, ceux qui se sont laissés. Ceux qui ne se sont pas laissés, tromper par l'incrédulité et la désobéissance, mais qui ont persévéré et qui sont restés dans la foi et l'obéissance. Seule la partie élue a atteint le but et est entrée dans la terre de la promesse. Il en va de même aujourd'hui en ce qui concerne l'Église du Seigneur. Beaucoup parlent du retour du Seigneur, du retour d'Israël dans la terre de la promesse. Beaucoup parlent de la fin des temps, voire des signes des temps, mais seule la partie élue. Seule la partie élue, celle qui croit aux promesses divines, atteindra le but. Que le Seigneur en soit remercié. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons de Romains 11 toujours, maintenant le verset 25 et 26. Romains 11, verset 25 et 26. Car je ne vous laisse pas dans l'ignorance, mes frères, au sujet de ce mystère,
de peur que,
par une prétendue intelligence, vous ne tombiez dans vos propres pensées. L'endurcissement a frappé une partie des Israélites jusqu'au moment où le nombre complet des païens sera entré. Que le Seigneur soit remercié. Nous sommes effectivement arrivés à ce moment où cette écriture trouve son accomplissement. Et cela dans l'Église épouse. Lorsque le nombre, la totalité sera complet, le Seigneur mettra un point final et nous prendra auprès de lui dans la gloire. Puis il se tournera vers Israël. Ensuite, les deux prophètes apparaîtront, proclameront la parole à Jérusalem avec l'autorité divine pendant 3 ans et demi. Ensuite, d'abord, le nombre de 144 000 sera appelé et scellé. Ensuite, tout Israël s'y joindra. Mais d'abord, il faut que l'Église épouse soit achevée, atteigne la perfection. L'Église épouse des nations doit d'abord, et cela doit d'abord avoir lieu. Ce n'est qu'alors que le Seigneur se tournera pleinement vers Israël et que toutes ces choses sont à main de portée, à portée de main, sont à portée de main. Le retour du Seigneur est vraiment à la porte. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons le verset 26 maintenant de Romains 11. Le verset 26. Et c'est ainsi qu'Israël sera sauvé dans sa totalité, selon qu'il est écrit. Ésaïe 59, verset 20 jusqu'au verset 21. Et Ésaïe 27, le verset 9. De Sion viendra le Sauveur et libérera Jacob de toute impiété. Que le Seigneur soit remercié. Paul, ici, s'est référé au passage de l'Ancien Testament et a annoncé haut et fort ce qui allait arriver avec tout Israël. S'il te plaît, nous lisons dans Jean 14. Jean 14, le verset 2b et verset 3. La deuxième partie du verset 2. Jean 14, la deuxième partie du verset 2 et ensuite du verset 3. Car je m'en vais vous préparer une place. Maintenant le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Rendons grâce au Seigneur. C'est ce que nous attendons. Et nous savons que le Seigneur reviendra comme il est écrit dans Actes apôtres chapitre 1, verset 11, le même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Et nous l'attendons. Encore quelques versets rapidement, s'il te plaît. Nous lisons Matthieu 24, verset 14. Et ce message de salut concernant le royaume sera prêché par toute la terre, à toutes les nations, en témoignage, et alors viendra la fin. Là aussi, nous pouvons simplement souligner du fond du cœur. Cela est devenu une réalité sous nos yeux. Le dernier message La parole du Seigneur a vraiment été annoncée à tous les peuples et à toutes les nations, à toutes les langues. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur et pouvons, dans cette émission, aussi souhaiter à tous nos frères et sœurs de tous les peuples et de toutes les langues une riche bénédiction de Dieu. L'Écriture est accomplie, et comme il est écrit, alors viendra la fin, et la fin est proche. S'il te plaît, nous lisons de Matthieu 25, verset 6. Mais à minuit retentit un cri. L'époux est là. Levez-vous pour le recevoir. Oui. Nous disons simplement, pas qu'il est déjà là, mais comme la plupart des traductions le rendent, l'époux vient. Mais c'est le dernier appel, non seulement tel qu'il est écrit, tel qu'il a été annoncé au cours des 2000 ans, mais avec une insistance, l'époux vient, il vient, il est à la porte. Lisons encore quelque chose. Nous lisons de Matthieu chapitre 25 encore, le verset 10 maintenant. Pendant qu'elles allaient acheter de l'huile, l'époux arriva. Et les vierges qui étaient prêtes entrèrent avec lui pour le repas de noces. Et la porte fut fermée. Nous devons également prendre ce verset et ce passage de l'Écriture très au sérieux. Seules celles qui étaient prêtes, qui seront prêtes, seules celles-là seront aux noces, seront enlevées par le Seigneur lors de son retour. Donc, soyez prêts à vous tenir devant lui et à voir sa gloire. Encore quelques versets. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 1 au verset 12. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 1 au verset 12. Au reste, frères, nous vous prions et nous vous exhortons et nous vous avertissons dans le Seigneur. Jésus a marché tout à fait comme vous l'avez appris de nous, de la manière dont vous devez vous conduire et vivre pour plaire à Dieu, que vous marchiez réellement de cette manière, afin que vous croissiez en cela sans cesse. Ce verset doit également être souligné, à savoir que nous devons vivre pour plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu, pour que le bon plaisir de Dieu, le plaisir de Dieu puisse se reposer et être en nous. Et que tous les frères et sœurs ouvrent et lisent eux-mêmes tous les versets jusqu'au verset 15. Mais qu'ils puissent aussi écouter ce qui est écrit à partir du verset 16. 1 Thessaloniciens 4. Lisez du verset 1 jusqu'au verset 15. Mais s'il vous plaît, toujours en gardant à l'esprit ce que nous avons déjà lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Car il s'agit ici de l'enlèvement dans ce chapitre. Et c'est pourquoi il est encore une fois souligné dès le premier verset que nous devons vivre pour plaire à Dieu et savoir comment nous devons marcher avec lui afin de participer à l'enlèvement. Et dans les autres versets, jusqu'au verset 15, cela nous est dit concernant notre préparation. Nous lisons maintenant à partir du verset 16, 1 Thessaloniciens 4, maintenant le verset 16. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel dès que retentira son commandement. Son commandement au réveil. Dès que retentira la voix du prince des anges et que sonnera la trompette de Dieu et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui serons encore restés vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours unis avec le Seigneur. Loué et exalté soit notre Seigneur. Nous vous disons cela sur la base d'une parole du Seigneur. Ensuite, nous lisons que le cri de réveil aura lieu. Que se passe-t-il maintenant? Ce n'est pas seulement un réveil général, mais le dernier appel comme cri de réveil avant le retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas encore le cri de 1 Thessaloniciens 4, mais c'est pour que nous puissions nous réveiller du sommeil spirituel, pour que nous soyons éveillés pour reconnaître vraiment au signe des temps ce qui se passe maintenant sur la terre et que la venue du Seigneur est à la porte et que nous devons nous tenir prêts. Tout est en train de s'accomplir. Et notre Seigneur l'a dit, quand vous verrez tout cela arriver, guerre, famine, temps difficile, tremblement de terre, tout, changement climatique, tout se produit. Et quand cela arrivera, relevez la tête, car la rédemption de votre corps est proche. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants pour le dernier message que nous avons entendu et que nous croyons de tout notre cœur. Que tous s'éveillent, se réveillent, que tous croient de tout leur cœur au dernier message. Qu'ils abandonnent toute paresse, toute tiédeur, qu'ils deviennent ardents d'esprit, prêts à servir le Seigneur en esprit. Que nos cœurs soient vraiment remplis de reconnaissance pour notre appartenance aux élus. Que nous ne manquions aucune réunion, que nous ne négligions aucun rassemblement, aucune réunion, et que nous croyons chaque parole de Dieu. Maintenant, écoutons encore un passage biblique. Nous lisons dans Ésaïe 55, du verset 8 au verset 11. Ésaïe 55, du verset 8 au verset 11. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. C'est ce que dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Il en est de même de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi à vide, mais seulement lorsqu'elle a accompli ce que j'ai voulu, lorsqu'elle a produit ce pourquoi je l'ai envoyé. voyez. Loué et exalté soit notre Seigneur. Ici aussi, je voudrais demander de relire ce texte encore une fois dans la prière. Comme ces pensées sont puissantes, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas les miennes. Vos voix ne sont pas les miennes. Dieu nous a fait la grâce d'abandonner nos propres voies et d'entrer dans le chemin de Dieu, le chemin étroit qui mène à la vie. Chaque verset, chaque ligne a ici une telle force d'expression. Et comme la pluie ne revient pas, mais tombe pour faire ce pourquoi elle a été envoyée, c'est-à-dire pour que le semeur puisse semer la semence. La pluie tombe et produit un effet sur le sol. La pluie ne reviendra pas, mais elle tombera pour que le semeur puisse semer. Nous attendons la pluie de l'avant-saison, de l'arrière-saison. Et comme il est écrit, et comme nous l'avons lu, frères et sœurs, s'il vous plaît, croyez Dieu. Croyez Dieu. Comme nous l'avons lu dans le dernier verset, la parole qui est sortie de ma bouche ne me reviendra pas vide. Ne me reviendra pas à vide, sans effet. Elle produira l'effet pour lequel je l'ai envoyée. Elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée et réalisera, produira ce que j'ai voulu. Oh mon Dieu, que puis-je dire de plus à cela? Ce n'est pas le prophète, ce n'est pas frère Branham, ce n'est pas frère Franck. Mais la parole de Dieu, c'est elle qui accomplira, qui réalisera, qui produira dans l'église épouse ce pourquoi elle a été envoyée. S'il vous plaît, relisez de tels passages bibliques et dites, Seigneur, bien-aimé, fais que cela s'accomplisse en moi ainsi par ta parole. Fais-moi participer à ce que tu fais actuellement. Laisse-moi prendre part entièrement à ce que tu fais maintenant. Et encore une fois, l'accent est mis sur le fait que la pluie ne retournera pas en haut. Elle rendra le sol fertile d'abord pour que l'on puisse semer. Et la parole du Seigneur a été envoyée pour que ce que Dieu a promis puisse arriver. Et nous sommes enfants de la promesse. Nous croyons la parole de la promesse. Et nous appuyons sur cette parole. Et nous nous tenons sur cette parole. Et nous disons, Seigneur, bien-aimé, accomplis en moi tout ce que tu as promis. Je crois de tout mon cœur que ta parole qui m'a été adressée ne reviendra pas sans effet à toi, ne reviendra pas à vide à toi, mais qu'elle m'emportera avec elle vers toi et qu'elle accomplira d'abord cela en moi, tout ce que tu as voulu jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la perfection, et que ma vie te sera agréable et que je serai là quand tu ramèneras les tiens auprès de toi. Voilà tout ce que tu veux et ta parole le réalisera en moi, en nous. Mon cœur est rempli. Je voudrais juste remercier Dieu d'avoir ouvert nos yeux spirituels, d'avoir ouvert notre compréhension, de nous avoir permis de croire comme le dit les Écritures. Que tous soient bénis dans le monde entier par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant et que toutes les paroles, toutes les promesses trouvent leur accomplissement en nous et à travers nous, jusqu'à ce que nous passions, nous aussi, de la foi à la vue. Soyez bénis par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant dans tous les peuples et toutes les langues, au nom saint de Jésus. Amen. Nous nous levons encore pour la prière finale. Le frère Borg va encore brièvement rendre grâce avec nous. Père Céleste, nous te remercions. Tu es fidèle et vrai dans tout ce que tu fais. Ce matin encore, nous avons entendu ta parole. Et ta parole ne revient pas vers toi à vide, mais seulement lorsqu'elle a porté ses fruits, produit l'effet pour lequel tu l'as envoyé, et cela parmi ceux qui croient en toi. Ce pourquoi tu l'as envoyé. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, pour ta fidélité, parce que tu as ouvert nos yeux, nos cœurs et nos oreilles au dernier message. Seigneur, nous te prions de bénir tous les auditeurs, tout ton peuple dans le monde entier. Guéris les malades, libère les enchaînés, et sauve ce qui est encore perdu pour la gloire de ton nom. Je te remercie pour cette prédication, pour cette proclamation, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis attiré vers le ciel, vers celui qui habite dans la gloire. La fidélité et l'obéissance seront récompensées. Laisse-moi aller vers le but et désirer la maison céleste. C'est là-bas que nous vivrons éternellement. Je veux vivre pour la maison céleste. Tous mes désirs sont tournés vers là-bas. Je veux rester attaché au Sauveur. Jusqu'à ce que mon pèlerinage soit achevé. Ô bonheur céleste, inexprimable, dans le pays du Père, ô la grâce resplendit. Il n'y a pas plus beau que ce que le ciel me promet. Je suis attiré vers cette vie au ciel. Vers ce pays que tu as bâti. quel bonheur, quelle gloire éternelle. Le ciel m'est ouvert. Et le vêtement blanc déjà préparé.